Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Plusieurs cas de choléra ont été signalés dans certaines provinces du pays, notamment dans la province du Katanga, où plus de 2300 cas, dont 76 décès, ont été enregistrés à Lubumbashi et dans plusieurs territoires de la province. C'est dans la période allant du 2 décembre 2012 au 3 février 2013. Qu'est-ce qui explique cette flambée de choléra dans la province du Katanga? Quels sont les moyens de prévention? Appelez-nous pour participer au 081 890 63 94. Vous avez des questions, des témoignages, des préoccupations, n'hésitez pas, appelez-nous déjà pour participer à cette émission. Nous avons en ligne Dr Eric Mukomena depuis Lubumbashi, il est spécialiste en contrôle des maladies tropicales. Dr Eric, bonjour.
Bonjour.
Alors, la première question, docteur, nous parlons du choléra, pouvez-vous nous présenter cette maladie?
Bien, le choléra, c'est une maladie qui est caractérisée par une diarrhée aiguë et des vomissements. Et si on ne prend pas garde, la personne qui évolue rapidement vers la mort. Donc, c'est une maladie tropicale due à un déficit d'hygiène et caractérisée par une diarrhée profuse et des couleurs l'eau. Donc, les selles sont des couleurs d'eau rhiziforme et avec des vomissements au début en jet et qui évolue rapidement vers le décès, si on ne prend pas garde.
Oui, vous dites que la cause, il y a seulement une seule cause, le déficit d'hygiène.
Donc, globalement, c'est une maladie, comme nous l'appelons, maladie des mains sales.
Voilà, maladie des mains sales, donc vous avez dit la cause, c'est lorsqu'il y a un déficit d'hygiène. Mais actuellement, dans la province du Katanga, qu'est-ce qui explique cette flambée, cette montée du choléra?
C'est principalement le manque d'hygiène, des manques d'hygiène, d'abord l'hygiène personnelle et l'hygiène un peu communautaire. L'hygiène personnelle, si quelqu'un mange sans s'être lavé les mains, et si quelqu'un n'entretient pas les toilettes et les latrines très bien, donc il y a éclosion, donc les latrines qui ne sont pas très bien canalisées, et vous savez, quand il y a beaucoup de pluie, les matières fécales vont rejoindre la tuyauterie de la régie des eaux ou bien les puits dans lesquels on s'alimente.
Est-ce qu'on peut dire que c'est pendant la période des pluies qu'il y a beaucoup plus de maladies, beaucoup plus de cas de choléra par rapport aux autres périodes?
Souvent les pics s'observent pendant les périodes pluvieuses.
Pendant la période pluvieuse. Alors, lorsqu'une personne a attrapé cette maladie, quels sont les signes qui peuvent aider la communauté ou la famille à reconnaître que c'est un début de choléra?
Bien, d'abord c'est la diarrhée. C'est une diarrhée profuse. Donc, les selles coulent d'elles-mêmes et la personne vomit. Et ce qui est curieux, la personne n'a pas de maux de ventre, n'a pas de maux de ventre et les tableaux évoluent très rapidement vers une déshydratation d'abord moyenne et puis aiguë sévère.
Il y a la diarrhée profuse, déshydratation, la personne s'affaiblit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là dans la famille? Faut-il quel geste poser à ce moment-là?
Le geste, il est simple. Transporter la personne au centre de santé le plus proche. Mais vous enfermez pas, parce que souvent ça arrive. Nous avons vécu plusieurs épidémies. La personne est un peu à honte, s'enferme. Si on est père de famille, par exemple, une diarrhée, ça coule. On se gêne, on s'enferme. On veut sortir de la maison seulement le soir quand le soleil sera déjà tombé. Et puis pour se rendre à l'hôpital, ça sera tard. Donc il faut se rendre à l'hôpital, au centre de santé le plus proche, immédiatement.
Voilà, il faut immédiatement aller au centre de santé le plus proche. Docteur, nous avons en ligne un auditeur qui nous appelle de Kinshasa, Omar Kigalo, bonjour.
Bonjour Jody Daniel.
On vous écoute Omar.
Merci beaucoup Jody, le sujet il est très important, j'ai entendu la cause, mais je voudrais savoir si les docteurs ne peuvent pas envisager aussi des causes environnementalistes, parce que comme on ne peut pas l'ignorer, l'environnement est un cadre de vie. Une étude publiée aux États-Unis a démontré que parmi les grandes causes des maladies, il y a aussi le non-respect de l'environnement. Il faut voir ce que les sociétés brassicoles, les sociétés de cuivre jettent dans l'eau. Lorsque l'eau, la terre et l'air ne sont pas respectés, il naît beaucoup de maladies qui nuisent la santé de la population. Est-ce qu'on ne peut pas rechercher la cause de la choléra dans le non-respect des règles environnementales? Parce qu'une étude l'a démontré récemment. Alors, et pourquoi ne pas punir tous ceux qui polluent l'environnement? Parce que lorsqu'on pollue l'environnement, ce sont des graves maladies qui s'en suivent. Voilà ma préoccupation aujourd'hui et c'est tout pour moi.
Merci Omar, bonne journée. Ami Sifataki, vous êtes à Kindu, au Manema, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Ok, j'aimerais tout simplement poser une question à notre invité.
Oui.
Dans toute chose sans la politique, rien ne peut marcher dans la nation. Alors, moi, j'aimerais lui poser une question. Est-ce que pour lutter efficacement contre la maladie là, qu'on appelle choléra, quelle est la politique qui a été mise en place par le gouvernement congolais pour mettre à feu, pour éradiquer cette maladie-là? Parce qu'on voit dans d'autres pays, on ne parle plus de cette maladie-là. Parce qu'on respecte l'environnement et on a mis tous les services qui devraient mettre tous les moyens en place pour lutter contre cette maladie-là. Vous allez voir, par exemple, ici chez nous, à Kindu, c'est un peu partout qu'il y a des poubelles. C'est un peu partout qu'il y a des toilettes. Même pas de latrines publiques. Voilà, vous allez voir, les gens déposent le caca en désordre, les gens urinent en désordre, et puis les aliments, on les vend en désordre. Parfois, les beignets là, le pain, c'est à ciel ouvert. Les mamans transportent les beignets sur leur tête à ciel ouvert. C'est-à-dire, les mouches, les insectes, et font leurs histoires drôles sur ces beignets-là. Alors, j'aimerais maintenant poser la question. Qu'est-ce que font tous les services? Parce que les législateurs congolais avaient mis un service d'hygiène. Les législateurs congolais avaient mis un service de l'environnement. Moi, je trouve que tous ces services-là sont là juste pour tracasser la population avec des taxes. Pourquoi ces services-là ne devaient pas se mettre au travail, d'abord pour prévenir une maladie qui tue les Congolais et qui ravage même la nation congolaise?
Merci.
C'est plus que la guerre.
Oui, merci Amissi.
Voilà,
merci Amissi Fataki de Kindu. Docteur Eric, vous avez suivi les préoccupations des auditeurs. Omar de Kinshasa, oui, nous dit que cette montée recrudescence du choléra peut être due au non-respect de l'environnement. Il a cité notamment les sociétés minières qui versent des déchets dans les cours d'eau et les sociétés brassicoles également.
Merci beaucoup. J'ai suivi les deux questions. Je commence par la dernière qui demande quelles sont les politiques. Et je vais rassurer monsieur qui a posé la question à partir de Kindu. Je vais répondre en partant d'un exemple. Quand nous étions tous gosses, les beignets qu'on vendait le long de la rue, c'était dans un sachet. Mais curieusement, l'homme congolais a changé. Ce n'est plus dans un sachet, dans un plastique. On vend ça à même l'air, donc à l'air libre et autres. Mais qui a dit aux Congolais de changer? Je pense que les problèmes du choléra, même s'il y a un volet organisation, la personne est au centre, la réhabilitation de l'homme est au centre de la lutte contre toutes les maladies qu'on appelle les maladies des mains sales. Parce que, pourquoi est-ce que actuellement les vendeurs de beignets, aussi bien à Lubumbashi qu'à Kindu, ne vendent plus dans un sachet comme il y a 15 ans? Donc c'était une règle. Mais le Congolais lui-même a renoncé à ça. La gestion des déchets ménagers. Tous, nous organisions l'évacuation des déchets ménagers vers un dépôt intermédiaire. Maintenant, les gens refusent, ils attendent qu'il pleuve pour qu'ils jettent les déchets de la maison des ménagers dans un caniveau, et ça bouche les caniveaux, et à la fin du compte, il n'y a pas de canalisation dans la ville. Et donc, il faut pas seulement regarder l'autre, je pense qu'il faut d'abord commencer par changer. Les Congolais doivent changer. Je reviens d'un forum à Kinshasa il y a deux jours. Nous sommes les services d'hygiène publique avec la démocratie. Si on arrête quelqu'un, on va dire « Ah, on a arrêté les droits de l'homme, on m'a arrêté ». Donc je pense que le Congolais doit changer. Nous devons faire spontanément en pensant aussi aux voisins, à autrui, pour que l'hygiène publique puisse triompher. Et donc, Les politiques, il en existe. Nous sommes un pays qui est en train de se reconstruire. Et les mouvements des populations. Est-ce qu'un Congolais est libre de vivre là où il veut? Mais de vivre dans des conditions dignes. Par exemple, à Lubumbashi, nous déplorons la surpopulation, et les mouvements de l'urbanisation ne suivent pas. Si le mouvement de l'urbanisation ne suit pas dans une ville, mais il y a 3 millions, 4 millions d'habitants à Lubumbashi actuellement, il y en avait 600 000, 700 000 il y a 20 ans, le problème est grave. Et donc, il faut prendre dans l'ensemble l'homme d'abord, et l'urbanisation qui doit aussi suivre. Mais oui. En tout cas, l'augmentation de la population se fait de façon très exponentielle.
Alors, docteur Eric, par rapport à l'environnement, il dit, comme on dit souvent que le choléra, c'est une maladie qui est liée... vous avez dit une maladie...
Je réponds à cette question par rapport à l'environnement.
Allez-y.
Donc, pour nous qui sommes dans une région qui puis faire, il n'y a aucun lien entre... les déchets liés au cuivre, la pollution, donc les déchets liés au cuivre et le choléra. Ça, il n'y a pas de lien. Mais il y a des liens avec l'environnement, parce que des liens avec l'environnement, par exemple, par rapport à la gestion des déchets. Là, j'assume qu'il y a des liens avec l'environnement. Par exemple, au lac Tanganyika, on a trouvé que les pH du lac Tanganyika était favorable au maintien du vibrio choléra. Et vibrio choléra, je ne l'ai pas dit, c'est les microbes qui causent les choléras. Donc le pH est alcalin, c'est au-dessus de 7, aux alentours de 8 quelque chose. Mmh. Et ce pH fait en sorte que les vibrio choléra, quand il y a rupture de courant, de fourniture de courant électrique à Kalemie, les gens vont au fleuve, vont au lac, et les gens déversent dans le lac, et donc les vibrio choléra peuvent vivre longtemps dans le lac. Et donc, c'est empêcher la population par l'approvisionnement en eau potable, en quantité et en qualité, qui peut être la solution à Kalemie.
Bien.
Choléra. Donc là, il y a un environnement propice au maintien du vibrio choléré.
Bien.
Dans les lacs Tanganyika.
Choléra, cause, traitement et moyens de prévention. Au CAPI Service, reçoit aujourd'hui Dr Eric Mukomena, spécialiste en contrôle des maladies tropicales. Il intervient depuis Lubumbashi, dans la province du Katanga.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Bien, Okapi Service parle du choléra. Adrienne Amouyete nous appelle de Lubumbashi et Angèle Télémy depuis Arou, en province orientale. Commençons avec Adrienne. Bonjour.
Je dis Daniel Kachama. Bonjour le docteur Eric Mukomena.
On vous écoute.
Ok, comme le docteur nous a dit dans l'introduction, que si vous voyez, vous remarquez les signes de choléra, rendez-vous directement dans les centres de santé les plus proches. Mmh. Alors ma première préoccupation est de savoir, est-ce que c'est efficace vraiment d'amener les gens qui ont cette maladie de choléra dans les centres de santé? Et j'aimerais aussi savoir si dans les centres de santé, il y a ces médicaments possibles qui pourront soigner cette maladie. Merci.
Adrienne, votre première question, vous demandez si c'est efficace de transporter la personne jusqu'à l'hôpital, c'est
ça? Oui, à l'hôpital, parce que moi, j'ai fait remarquer qu'il y a une place pour eux. Mais si le docteur nous dit qu'il faut les amener dans les centres de santé les plus proches, là, ça m'étonne.
Voilà, pour vous, il y a un endroit spécialisé pour ces cas
de choléra. Oui, même le docteur le sait très bien, c'est à Katouba, là on amène les gens qui ont le choléra, mais si le docteur nous dit qu'il est amené dans les centres de santé, là c'est autre chose.
Bien, merci docteur, on va répondre tout à l'heure. Angèle Télémy, vous êtes à Arou, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, et bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Oui, j'ai une question à poser à l'invité. Je voulais tout simplement savoir pourquoi, en cas de choléra, on ne donne pas aux malades les acides diarrhéiques, mais on réhydrate tout simplement les malades. Voici ma question.
Merci. Docteur Eric. docteur.
Donc, je vais commencer par la première question. On m'a demandé pourquoi est-ce que je dis, je conseille d'amener au centre de santé le plus proche. Je conseille d'amener, je sais bien qu'à Lubumbashi, nous avons 3 centres de traitement. Mm-hmm. Un centre à l'hôpital général Jason Sendwe, un deuxième centre à l'hôpital général de la Kenya et un troisième centre à la Katuba. Mais prenons le cas des figures là où vous vous trouvez à la Rouachi, c'est à peu près à 8 km, 10 km du centre-ville, là où il y a les centres. Et comment est-ce que vous allez vous y prendre? Donc c'est là que je conseille d'abord d'aller dans un centre de santé le plus proche. Ils vont placer une perfusion. Nous avons beaucoup d'ambulances qui transportent les malades. La zone de santé de Rouachi, par exemple, a une ambulance. Avant d'évacuer les malades, il faut que les malades soient sous perfusion. C'est ça que nous conseillons. Nous savons que nous soyons... Donc, il faut aller au centre de santé le plus proche. Tu peux être à 20 km. Nous sommes dans la ville de Lubumbashi. À 20 km. Tu n'as pas de moyens de transport et autres. Et donc, il faut d'abord les gestes salvateurs, c'est poser une perfusion dans le centre de santé le plus proche et évacuer les cas. Vers les 3 centres que nous connaissons à Lubumbashi, Sendwe, Kenya et Katuba.
Voilà.
Pour ce qui concerne la prise en charge, la prise en charge, elle est gratuite dans ces centres-là.
Oui.
Et donc, nous avons, la prise en charge est gratuite. Nous avons des liquides, suffisamment de perfusion pour prendre en charge les cas. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. On peut diriger ces malades-là vers les centres de santé.
Oui. Et alors, docteur Eric, est-ce que vous êtes sûr que tous les centres de santé sont équipés, ont des médicaments et des, tout ce qu'il faut pour prendre en charge les
malades? Nous avons placé des sérums. Nous avons placé des sérums dans certains centres de santé de l'État et ou bien qui collaborent avec l'État, le confessionnel. Si vous arrivez là-bas, les gestes salvateurs vont être posés une perfusion. Nous avons suffisamment de liquide, suffisamment, je peux vous assurer.
Mmh. Angèle, depuis Arou, vous pose la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas donner des antidiarrhéiques aux personnes souffrant de choléra ou il faut tout simplement la réhydratation?
C'est la réhydratation, donc c'est un peu compliqué, comme nous avons beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas du corps médical, mais je vais m'expliquer, recouper mon explication. Donc, on ne donne pas les antibiotiques parce que la toxine qui cause le choléra, donc les microbes qui causent le choléra, a une toxine. Cette toxine a une durée de vie. La durée de vie, c'est donc peut-être 72 heures. Donc, quand elle a déclenché le choléra, donc cette diarrhée-là profuse, au bout de quelques temps, le malade va perdre le liquide. C'est ainsi qu'on remet juste le liquide parce que à bout de quelques temps, la demi-vie de cette toxine va être dépassée et donc la diarrhée va s'arrêter.
Mmh.
Et donc, si on ne peut pas, si on veut corriger, il faut remplacer les liquides qui sont en train de sortir et au bout de quelques temps, donc la diarrhée va s'arrêter parce que la toxine va devenir inactive.
Voilà,
donc, il ne faut pas donner les antidiarrhéiques. Si tu donnes les antidiarrhéiques, la personne qui perd les selles a des vibrio cholérae dans ses selles, ça va devenir une bombe dans le ventre.
Bien.
Si vous bloquez cette diarrhée-là, il faut laisser cette diarrhée-là et perfuser.
Bien. Soupi Nyembo nous appelle de Kalima, au Maniema, et Songolo de Kindu, toujours dans la province du Maniema. Soupi Nyembo, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel, bonjour à votre invité. J'ai une question et un témoignage. Je commence d'abord par la question. Je demande auprès de notre invité une question de savoir, est-ce que cette maladie est comme d'autres maladies, comme la grippe, qui fait des répétitions dans un corps ou dans une chair d'une personne? Par exemple, si vous avez la grippe par un an, cette maladie peut vous faire rentrer 2 fois ou 3 fois. Après 3 mois ou bien après 2 mois, vous verrez que vous êtes encore revenu à cette même maladie. Est-ce que le choléra aussi fait cela? Bon, les témoignages aussi d'où je voudrais compléter auprès toujours de notre invité et de dire, je vois de certains groupes sanguins, par exemple les groupes zéro. Moi aussi, je possède ce groupe-là sanguin des groupes zéro. Mais je ne suis pas vraiment assez atteint à beaucoup de maladies comme la rougeole, les kwashiorkor, d'autres maladies qui prend vraiment aux enfants. Même si je demandais auprès de ma maman, de ma mère, elle me répondait que lorsque je suis enfant, je ne suis pas atteint à toutes ces maladies-là. C'est pourquoi je demande, est-ce que certains groupes sanguins favorisent de ne pas avoir ces maladies? Voilà, je dis Daniel.
Voilà, particulièrement donc le choléra, ceux qui ont du groupe, ceux qui sont du groupe O positif, est-ce que ils sont à l'abri du choléra? Merci Soupignembo. Songolo, vous êtes à Kindu, au Maniema, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jedi, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi Service, de la radio Capi, surtout les fidèles auditeurs de l'émission Capi Service. J'ai une petite question à poser à notre invité, et celle de savoir, parce que au départ il a dit que si quelqu'un, une personne est en train de développer le choléra, il est mieux de le déférer juste
dans un centre de santé,
le centre de santé le tout proche.
Oui.
Voilà. Voilà ma question. Quelles sont les conditions, soit les mesures que les gens qui sont en train de transporter les malades doivent remplir? Parce que j'avais connu un cas comme ça, il y avait quelqu'un qui développait cette maladie. Alors, les gens étaient venus pour le prendre et aller avec lui à l'hôpital. Mais avant qu'on se soit rendu à l'hôpital, la victime était morte en cours de route.
Bien.
Et après l'inhumation, les gens qui les transportaient ont commencé aussi à développer cette maladie. Alors c'est pourquoi je voulais savoir quelles sont les mesures et les conditions que les transporteurs doivent remplir pour éviter la contamination, s'il est vrai que la contamination peut se faire pour les simples contacts répétés.
Merci. Merci Songolo. Docteur Eric.
Oui, je suis en ligne.
Alors vous avez...
Bien, donc la première question donc était relative à...
Oui, Soupi. Oui. Non, la première question de Soupi, d'une manière, il veut savoir si le choléra peut se répéter, comme d'après lui, il a comparé le choléra, la grippe revient souvent. Alors, il veut savoir si le choléra est une maladie qui peut se répéter également. On peut la traiter aujourd'hui et puis elle revient après.
Oui. Donc, nous avons constaté que le choléra peut se répéter parce que si vous ne prenez pas des mesures adéquates, vous êtes infecté la première fois, vous rentrez à la maison, et un mois après, vous ne prenez pas des précautions d'hygiène et autres, vous continuez à consommer de l'eau qui n'est pas potable, et donc là, vous pouvez vous contaminer. Nous avons eu des cas pareils, donc une famille qui s'est recontaminée deux ou trois fois, donc pendant une période d'épidémie de trois mois, six mois. Si on ne prend pas des dispositions, des propriétés, d'hygiène, de consommer de l'eau propre, et on peut se recontaminer. Ce n'est pas exclu. Donc, on peut se recontaminer. Par rapport à un groupe qui serait donc sanguin, qui serait plus exposé, il n'y a pas encore d'études, mais j'informe à notre auditeur que plus de 60% des Congolais sont du groupe sanguin O.
Voilà. Mais est-ce que cela met à l'abri du choléra, protège contre le...
Non, il n'y a pas d'études qui ont démontré ça.
Bien. Songolo de Kindu dit, quelles sont les mesures à prendre pour transporter une personne malade? Parce que d'après lui, il connaît une histoire, les gens qui ont transporté le malade, d'après lui, le malade était mort en cours des routes et après, ces personnes ont développé la maladie plus tard.
On peut se contaminer, c'est vrai, c'est connu, c'est pour cela que tous les rituels africains qui enterrent, qui entourent les rituels des morts est prohibé en cas de décès de choléra parce qu'on peut se contaminer. À Lubumbashi, il y a quelques années, un journaliste disait c'est inutile d'amener un cadavre à domicile de choléra à domicile parce qu'on risque de se contaminer tout autour et puis avoir des morts en cascade. Et donc, si quelqu'un décède ou bien a le choléra, il faut prendre des mesures de protection. Normalement, le garde malade est ganté, il a des gants, et puis les habits du malade qui a le choléra sont nettoyés au centre de traitement du choléra. Ce n'est pas nettoyé à la maison, c'est nettoyé au centre de traitement du choléra. Et la plupart du temps, les personnes qui ont été exposées à ce malade-là, nous avons l'habitude de les remettre une molécule donc qu'on appelle doxycycline à titre préventif, comme ils ont été exposés à un mort. Et puis les morts lui-même, quand ils décèdent, nous, du service médical, avec la Croix-Rouge, nous avons l'habitude d'emballer les corps dans un sac mortuaire et enterrer ces morts dans le respect des règles des cadavres hautement infectieux.
Oui, mais docteur Eric, quelles précautions prendre? Par exemple, la personne est à la maison, elle fait une diarrhée qui ne s'arrête pas.
Oui.
Maintenant, il faut l'acheminer rapidement à l'hôpital. Et comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas s'exposer?
On l'achemine à l'hôpital, comme dans nos villages, souvent c'est sur un vélo. quand on arrive à l'hôpital, ce que nous faisons, nous désinfectons tous donc les personnes qui ont été exposées, et même les vélos qu'il a transportés, nous les désinfectons, et puis nous rentrons à domicile là où les malades sont venus, nous avons l'habitude de faire un quadrillage donc des 10 maisons tout autour de la maison d'où est venu le cas. Nous allons désinfecter la maison avec les corps, nous allons désinfecter les toilettes et même les toilettes dans les alentours de là où est venu le malade.
Bien. Docteur Kipasa nous appelle de Kikwit et Victor Ingopa de Kananga. Docteur Kipasa, bonjour.
Bonjour, bonjour Jody.
On vous écoute.
Ah, bonjour docteur, oh, confrère. Docteur, je voulais juste savoir quel est la distribution de cette épidémie par rapport au quartier là où vous êtes. Est-ce qu'il y a un quartier qui est beaucoup plus concerné? De deux, d'accord. S'il y a un quartier qui est beaucoup plus concerné, quel est le niveau de connaissance, attitude et pratique de la population là, dans ces quartiers-là? Et parce que ça se répète, ça continue chaque fois qu'on apprend que ce problème revient. Et aussi, à quel niveau pouvez-vous estimer la mobilisation sociale pour prévenir ces problèmes-là?
Merci, docteur Kipasa. Victor Ingopa, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute.
Un peu pour la voix. J'ai une petite tomée. Quand cela ne tient, je vais toujours poser ma question.
Allez-y.
Je m'excuse d'abord, peut-être, je peux faire les rédits parce que je viens de reprendre en cours d'émission. Je vais vous bien poser quelques questions, donc des petites questions à notre invité.
Allez-y rapidement.
La maladie de choléra est une maladie contagieuse? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, est-ce que le programme national, ou soit de la santé, a prévu quand même de prendre les victimes de cette maladie en charge, ou soit ces santé même qui se supportent? Voilà ma question.
Merci. Docteur Eric.
Oui, je suis à Ligue.
Allez-y, la première question, bon, docteur Kipasa de Bandounouville vous a posé la question de savoir s'il y a un quartier qui est plus concerné par touché par cette maladie, le choléra, et quel est le niveau des connaissances de la population sur la maladie et sur les mesures préventives, et puis quel est le niveau des mobilisations sociales pour lutter contre le choléra
à Lubumbashi. Merci beaucoup, mon frère, pour la question. Il y a trois quartiers qui étaient essentiellement frappés par l'épidémie, qui ont été pourvoyeurs de beaucoup de cas ici dans la ville de Lubumbashi. C'était le quartier communément appelé ici à Lubumbashi Brondo, c'est un quartier sans urbanisation, et un quartier qu'on appelle Bel Air Kaleja, c'est aussi à Lubumbashi. Ces quartiers-là sont, il y a un problème de canalisation et puis il y a un problème d'eau. Et donc les quartiers sont bien identifiés et actuellement les niveaux de connaissances, c'est à contrario, c'est un niveau de connaissance très acceptable. Malheureusement, ce que les gens vous disent, c'est ce qui contraste avec les pratiques. Donc les connaissances sont des niveaux très élevés, mais ce que les gens font en pratique, ça diverge. Mmh. C'est là que je dis, à un certain moment, on a commencé à se poser la question, est-ce que c'est une tentative de suicide communautaire, parce que on sait bien qu'il faut se laver les mains avant et après. Il faut bouillir de l'eau comme si ce n'est pas de l'eau potable, la régie des eaux. Tout le monde le sait, des mesures d'hygiène. On vous les répète, mais on n'applique pas ça. Et donc, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons, comme c'est la communication qui est l'arme efficace et l'approvisionnement en eau potable, nous n'allons pas nous lasser à insister, et des réseaux de communication avec des professionnels de Lubumbashi et venus de Kinshasa sont à pied d'œuvre. Nous sommes en train de travailler sous l'autorité politico-administrative des communes, des quartiers, des avenues pour venir à bout, et je peux vous rassurer que la tendance est nettement à la baisse ici à Lubumbashi.
Alors, docteur Eric, pour terminer, un message que vous pouvez lancer à la population de Lubumbashi et de la province qui vous écoute en ce moment par rapport au choléra.
Merci beaucoup. J'ai fini par la deuxième question qu'on m'a posée. Le choléra est bel et bien une maladie contagieuse.
Ah oui, bien sûr, la question de Victor.
Oui. Le message, c'est le message de dire qu'il y a l'épidémie dans la ville. Les autorités politico-administratives avec les partenaires du secteur de la santé ont mis le paquet, mais c'est à nous, population, c'est à nous, citoyens de Lubumbashi, du Katanga, de servir des mesures. C'est laver les mains avant et après les repas, après avoir été aux toilettes, il faut se laver les mains, il faut boire de l'eau potable qui est mise à votre disposition par les autorités politico-administratives ou bien de santé. Il faut aménager des latrines propres et hygiéniques. Il faut éviter de manger les aliments exposés à même le sol. Si quelqu'un est mort du choléra, quelqu'un est décédé du choléra, il ne faut pas retourner le cadavre à domicile, laisser le cadavre entre les mains du professionnel de santé qui vont l'enterrer et vont prendre des mesures aussi bien pour les décès des cadavres, aussi bien pour les ménages des malades. Et donc c'est ça le mot de la fin que je peux donner à nos auditeurs.
Docteur Eric Munkomena, spécialiste en contrôle des maladies tropicales et médecin inspecteur provincial au Katanga, merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.